Chapitre 2. Nos relations quotidiennes subirent à cette époque une interruption d'une quinzaine de jours. Je dus à l'improviste m'absenter de Genève. À mon retour, je dirigeais sans tarder mes pas vers le boulevard des philosophes. J'eus le regret d'entendre, à travers la fenêtre ouverte du salon, la voix onctueuse et profonde d'un visiteur qui parlait sur un ton assuré. Devant la fenêtre, le fauteuil de Madame Aldine était vide. Je vis Mademoiselle Aldine assise sur le canapé, et je distinguai dans ses yeux gris un regard d'accueil et l'ombre d'un sourire de bienvenue. Mais elle ne fit pas un mouvement. Elle tenait sur ses genoux, renversée sur sa robe de deuil, ses mains blanches vigoureuses, en face d'un homme qui présentait à mes yeux un large dos couvert de drap noir et bien assorti à sa voix profonde. Il tourna vivement la tête par-dessus son épaule, mais pendant une seconde seulement. « Ah, votre ami anglais, je sais, ce n'est rien. » Il portait des lunettes à verre fumé, et un haut chapeau de soie était posé sur le sol, à portée de sa chaise. Avec des gestes légers de sa grosse main molle, il poursuivit son discours dont il précipitait légèrement le débit. « Je n'ai jamais senti s'altérer la foi née en moi, pendant ma course errante à travers les forêts et les fondrières de la Sibérie. » Elle m'a soutenu alors, comme elle me soutient aujourd'hui. Les grandes puissances de l'Europe sont appelées à disparaître, et la cause de leur ruine sera très simple. Elles s'épuiseront dans la lutte contre leur prolétariat. En Russie, il n'en est pas de même. En Russie, nous n'avons pas de classe qui puisse se combattre, l'une détenant la puissance de la richesse, l'autre forte de la force du nombre. Nous n'avons qu'une bureaucratie malpropre, en face d'un peuple aussi grand et aussi incorruptible que l'océan. Non, nous n'avons pas de classe, mais nous avons la femme russe, l'admirable femme russe. Je reçois des lettres extraordinaires signées par des femmes, des lettres si élevées de ton, si courageuses et respirant un si noble désir de servir. La meilleure partie de notre espoir repose sur les femmes. Je vénère leur soif de connaissance, admirable chose. Voyez comme elles absorbent, comme elles assimilent toute connaissance. C'est miraculeux. Mais qu'est-ce que la connaissance? On m'a dit que vous n'aviez suivi aucune branche particulière d'études, la médecine par exemple. Non? C'est bien. Si vous m'aviez fait l'honneur de me consulter sur l'usage de votre temps à votre arrivée ici, je me serais fortement élevé contre ce genre d'études. La connaissance en elle-même n'est que poison. L'homme avait une de ces figures russes, barbues et sans forme, simple masse de chair et de poils, où l'on ne décelait aucun trait caractéristique. Ses yeux, cachés derrière les verres sombres, étaient entièrement dénués d'expression. Je l'avais aperçu déjà. C'était un réfugié russe de marque. Tout Genève connaissait sa volumineuse personne, vêtue de noir. À un moment donné, l'Europe tout entière avait été au courant de l'histoire de sa vie, écrite par lui-même, et qui avait été traduite en 7 ou 8 langues. Dans sa jeunesse, il menait une existence oisive et dissolue. Puis une jeune fille de la société, qu'il allait épouser, étant morte soudainement, il avait abandonné le monde et commencé à conspirer dans un esprit de repentir. L'autocratie de son pays ne manqua pas de lui réserver le sort habituel. Il fut emprisonné dans une forteresse, knouté presque à mort, et condamné à travailler aux mines, avec des criminels de droit commun. Mais le grand succès de son livre fut l'histoire de sa chaîne. Je ne me souviens pas exactement maintenant du poids et de la longueur des fers qu'un ordre de l'administration avait fait river à ses membres. Mais il y avait dans le nombre de livres et dans l'épaisseur des chaînons une affirmation terrifiante du principe divin de l'autocratie. Terrifiante et puérile aussi, car le gros homme avait réussi à emporter avec lui, dans les bois, cet engin gouvernemental. Le cliquetis impressionnant de ses fers retentit tout au long des chapitres qui racontent sa fuite, sujet d'émerveillement pour les deux continents. Il avait d'abord réussi à se cacher aux yeux de ses gardiens dans un trou de la berge d'une rivière. C'était à la fin du jour. Avec une peine infinie, il avait pu libérer une de ses jambes. La nuit tombait cependant, il allait s'attaquer à l'autre jambe lorsqu'un terrible malheur lui arriva. Il laissa tomber sa lime. Tout ceci est précis et pourtant symbolique, et la lime a son histoire pathétique. Elle lui avait été donnée un soir, à l'improviste, par une jeune fille à la figure calme et pâle. la pauvre créature était venue aux mines pour rejoindre un de ses camarades forçats, un jeune homme délicat, mécanicien et social-démocrate, aux pommettes saillantes et aux grands yeux fixes. Elle avait, à grand-peine, traversé la moitié de la Russie et presque toute la Sibérie pour venir le trouver, avec l'espoir, semble-t-il, de l'aider à s'échapper. Mais elle était arrivée trop tard. Son fiancé était mort une semaine auparavant. C'est, comme le dit l'auteur, cet épisode obscur dans l'histoire des idées de la Russie qui lui procura une lime et lui inspira l'ardente résolution de regagner la liberté. Lorsque l'instrument glissa entre ses doigts, on aurait dit qu'il s'était, du coup, enfoncé dans la terre. Il ne put, malgré tous ses efforts, mettre la main dessus dans l'obscurité. Il tâtonna systématiquement dans la terre meuble, dans la boue, dans l'eau. La nuit passait cependant, la nuit précieuse sur laquelle il comptait pour s'enfuir dans la forêt, sa seule chance de salut. Pendant un instant, le désespoir lui suggéra l'idée de renoncer à son dessein. Mais au souvenir de la figure triste et calme de la jeune fille héroïque, il eut une honte profonde de sa faiblesse. Elle l'avait choisi pour lui faire don de la liberté, et il devait se montrer digne de cette faveur que lui accordait l'âme féminine et indomptable. C'était une sorte de confiance sacrée. Succomber eût été une véritable trahison envers la sainteté du sacrifice et de l'amour féminin. Il y a dans son livre des pages entières d'auto-analyse, d'où émerge comme une blanche figure, au-dessus de l'ombre d'une mère confuse, la conviction de la supériorité spirituelle de la femme, foi nouvelle qu'il a proclamée depuis dans de nombreux ouvrages. Le premier tribut qu'il paya à cette foi, le grand acte de sa conversion, c'est l'extraordinaire existence qu'il mena dans les forêts sans fin de la province d'Okhotsk, avec l'extrémité libre de sa chaîne roulée autour de la taille. Une bande, arrachée à sa chemise de forçat, en fixait le bout de façon ferme. D'autres bandes la maintenaient de loin en loin sur sa jambe gauche pour assourdir le bruit et pour empêcher les anneaux de pendre et de s'accrocher au buisson. Il devint tout à fait farouche et acquit un génie insoupçonné dans l'art de mener une existence sauvage et pourchassée. Il apprit à se glisser dans les villages, sans trahir sa présence, autrement que par un cliquetis rare et étouffé. Il faisait irruption dans les maisons isolées avec une hache dérobée dans un chantier de bûcherons. Dans les régions désertes du pays, il vivait de baies sauvages et cherchait du miel. Ses vêtements l'abandonnaient peu à peu. Des visions confuses de son corps à demi nu et basané, aperçues à travers les buissons, au milieu d'une nuée de moustiques et de mouches qui volaient autour de sa tête broussailleuse, suscitaient des légendes de terreur dans des districts entiers. Son humeur se faisait sauvage avec le cours des jours, et il était heureux de s'apercevoir qu'il y eut tant de la brute en lui. C'était sa seule raison d'espérer, car il semblait qu'il y eût deux êtres humains indissolublement liés dans cette entreprise. L'homme civilisé, l'enthousiaste, épris d'idées humanitaires et avancées, avide du triomphe de l'amour spirituel et des libertés politiques, et l'être primitif, furtif et sans pitié, rusant de jour en jour, comme une bête traquée pour conserver sa liberté. La bête sauvage se dirigeait instinctivement vers l'Orient, vers la côte du Pacifique, et l'humanitaire civilisé, dans sa dépendance anxieuse et tremblante, assistait avec effroi à ses progrès. Au long de toutes ces semaines, il ne put jamais se décider à faire appel à la pitié des hommes. Une telle réserve, naturelle à la prudence du sauvage primitif, s'était développée chez l'autre aussi, chez l'être civilisé, chez le penseur, chez le politique en fuite, comme une forme absurde de pessimisme morbide, comme une sorte de démence passagère, née peut-être de l'affliction perpétuelle et du tourment de la chaîne. Cette chaîne lui semblait devoir faire de lui un objet d'horreur pour le reste du monde. C'était un fardeau répugnant et suggestif. Quel homme aurait pu s'apitoyer au spectacle hideux d'un fugitif à la chaîne brisée? La hantise de ses fers finit par faire naître dans son esprit une image précise et concrète. Il lui semblait impossible que l'on sût résister à la tentation d'en fixer l'extrémité libre à un crampon en attendant l'arrivée d'un agent de police requis à la hâte. Blotti dans des trous ou caché dans des buissons, il avait tenté de lire sur les traits des colons qui travaillaient dans les clairières ou passaient sans soupçon à deux pas de sa cachette sur les sentiers de la forêt. Et il sentait qu'à aucun homme au monde il ne pouvait, sans danger, offrir la tentation de cette chaîne. Un jour, cependant, le hasard lui fit rencontrer une femme solitaire. C'était sur la pente d'une prairie découverte, à la lisière de la forêt. Assise sur la berge d'une rivière étroite, elle portait un mouchoir rouge sur la tête et gardait à portée de la main un petit panier posé sur le sol. On apercevait à quelque distance un groupe de cabanes en bois et un moulin se mirait dans un étang maintenu par une digue. Ombragée par des bouleaux, la pièce d'eau brillait comme une glace dans le crépuscule. Le fugitif s'approcha silencieusement, un gros gourdin à la main et la hache passée dans sa ceinture de fer. Il y avait des feuilles et des brindilles dans sa barbe broussailleuse et dans ses cheveux hirsutes. Les lambeaux de chiffon dont il avait garni sa chaîne pendaient autour de sa taille. Un léger cliquetis des fers fit tourner la tête à la femme. Trop terrifiée par cette apparition farouche pour bondir ou appeler à l'aide, elle avait aussi trop de cœur pour s'évanouir. Elle s'attendait à être massacrée à l'instant et se cacha les yeux dans les mains pour ne pas voir la hache s'abattre sur sa tête. Lorsqu'elle eut retrouvé assez de courage pour ouvrir les yeux, elle vit à 6 pieds d'elle le sauvage velu assis sur la berge. Il avait passé autour de ses jambes nues ses bras maigres et musclés. Sa longue barbe recouvrait les genoux sur lesquels il posait son menton. Les membres ramassés et pliés, les épaules nues, la tête farouche aux yeux rouges et fixes, étaient agités d'un tremblement convulsif, tandis que la créature bestiale s'efforçait de parler. Il y avait 6 semaines qu'il n'avait pas entendu le son de sa propre voix. Il semblait qu'il eût perdu la faculté de la parole, et ne fût plus qu'une brute muette et désespérée. C'est un cri soudain et inattendu de la femme, cri de pitié profonde, c'est l'intuition de la compassion féminine qui avait su découvrir la misère complexe de l'homme sous l'aspect terrifiant du monstre qui le ramenèrent au rang de l'humanité. Cette idée est développée dans l'ouvrage avec une éloquence très émouvante. Elle finit, dit-il, par verser des larmes sur lui, larmes saintes, larmes de rédemption, tandis qu'il pleurait de joie de son côté à la façon d'un pêcheur converti. Elle lui conseilla de rester caché dans les buissons et d'attendre son retour avec patience, car on avait signalé l'arrivée prochaine d'une patrouille de police dans la colonie. Et elle partit vers sa maison en promettant de revenir le soir. Comme par une faveur spéciale de la Providence, elle se trouvait être la jeune femme d'un forgeron du village. Elle put décider son mari à venir avec elle et à apporter des outils de sa profession, un marteau, un ciseau et une petite enclume. Mes fers, dit le livre, furent brisés sur la rive du ruisseau, à la lueur des étoiles d'une nuit calme, par un jeune homme du peuple, athlétique et taciturne, agenouillé à mes pieds, tandis que près de lui, comme un génie libérateur, la femme se tenait debout, les mains jointes. C'était évidemment un couple symbolique. Ils procurèrent en même temps aux fugitifs des vêtements adéquats à son humanité retrouvée et rendirent du cœur à l'homme nouveau, en l'informant que la côte du Pacifique n'était éloignée que de quelques milles. On pouvait l'apercevoir du sommet de la crête voisine. Le reste de sa fuite ne prête plus à des conceptions mystiques ou à des interprétations symboliques. Il finit par gagner l'Occident, à la façon commune, par le canal de Suez. En débarquant sur les rives de l'Europe méridionale, il se mit à écrire son autobiographie. Ce livre, le grand succès littéraire de l'année, fut suivi d'autres ouvrages écrits dans le but avoué d'élever l'humanité. Dans ses volumes, il prêchait en général le culte de la femme, que, pour sa part, il pratiquait selon les rites d'une dévotion particulière aux vertus d'une certaine Madame de S. C'était une dame, d'un certain âge déjà, et qui faisait montre d'idées avancées, après avoir été autrefois l'épouse intrigante d'un diplomate défunt et oublié. Elle abritait sur le territoire républicain de Genève, comme Voltaire et Madame de Staël, ses prétentions hautement affichées à la domination de la pensée et du sentiment moderne. Elle parcourait les rues dans son vaste landau, en exhibant à l'indifférence des indigènes et à la curiosité des touristes la raideur hiératique d'un buste juvénile à la taille basse et l'éclat de deux grands yeux qui roulaient sans trêve derrière un voile court de dentelle noire. Ce voile ne descendait pas plus bas que les lèvres d'un rouge vif et prenait un aspect de masque. En général, l'héroïque fugitif, ce nom lui avait été octroyé dans une critique de l'édition anglaise de son œuvre, l'héroïque fugitif l'accompagnait, la barbe déployée et les yeux masqués de vert sombre, assis non point à ses côtés, mais devant elle, et tournant le dos aux chevaux. Placés ainsi en face l'un de l'autre, sans personne d'autre qu'eux dans la grande voiture, ils donnaient à leur promenade un aspect volontaire de manifestation publique. Peut-être n'était-ce là pourtant qu'un geste involontaire. La simplicité russe, même animée par les plus nobles aspirations, côtoie souvent le cynisme avec une ingénuité parfaite. Mais c'est une entreprise vaine, pour les Européens pourris que nous sommes, de tenter de comprendre ces choses. À considérer l'air de gravité qui inspirait le visage même du cocher et les mouvements des chevaux magnifiques, on pouvait même attribuer à cette étrange exhibition une signification mystique. Mais, à la frivolité corrompue d'un esprit occidental comme le mien, elle paraissait à peine décente. Cependant, il ne sied guère à un obscur professeur de langue de critiquer un héroïque fugitif de célébrité mondiale. La renommée faisait de lui un homme remuant et actif, qui pourchassait ses compatriotes dans les hôtels ou les appartements privés, et, m'avait-on dit, leur accordait l'honneur de son attention dans les jardins publics, chaque fois que se présentait une occasion convenable. Je croyais me souvenir qu'après une ou deux visites, anciennes de plusieurs mois, il avait renoncé à catéchiser les dames Aldines, avec regret sans doute, car on aurait su l'accuser de ne pas se montrer homme de décision. On pouvait s'attendre à lui voir faire une nouvelle tentative, en cette horrible circonstance, pour venir, comme russe et comme révolutionnaire, dire les paroles nécessaires et faire vibrer la note juste et peut-être consolante. Mais il me fut pénible de le trouver assis là. Je ne crois pas que ce sentiment eût rien à faire avec une jalousie déplacée ou avec le désir de conserver dans la maison ma situation privilégiée. Je ne réclamais aucune faveur spéciale pour mon amitié silencieuse. La différence de nos âges et de nos nationalités me repoussait, semble-t-il, dans une autre sphère d'existence, et je me faisais à moi-même l'effet d'un fantôme muet et impuissant, d'un être immatériel qui ne pouvait que montrer son anxiété, sans accorder à ceux qu'il aimait la moindre protection ou même le murmure d'un conseil. Comme Mademoiselle Aldine, avec son instinct si sûr, avait omis de me présenter au gros révolutionnaire, je me serais retiré doucement pour revenir plus tard, si je n'avais cru saisir dans les yeux de la jeune fille une expression particulière où je vis une prière de prolonger ma visite et d'abréger peut-être une conversation déplaisante. Le gros homme reprit son chapeau, mais seulement pour le poser sur ses genoux. « Nous nous rencontrerons à nouveau, Natalia Viktorovna. Je ne suis venu aujourd'hui que pour témoigner à votre honorée mère et à vous-même des sentiments dont la nature ne pouvait être douteuse. » Je n'avais pas besoin qu'on me pousse, mais Éléonore, Madame de S, elle-même, m'a, pour ainsi dire, envoyé ici. Elle vous tend une main de fraternité féminine. Il n'y a vraiment, dans tout le domaine des sentiments humains, aucune joie ou aucun chagrin que la femme ne sache comprendre, anoblir et spiritualiser par son interprétation. Ce jeune homme dont je vous ai parlé, et qui est arrivé récemment de Pétersbourg, est déjà sous le charme. » Là-dessus, Mademoiselle Aldine se leva brusquement. J'en fus heureux. L'homme ne s'attendait évidemment pas à un mouvement aussi décidé, et rejetant un instant la tête en arrière, il leva vers elle ses lunettes sombres, avec un geste de curiosité intéressée. À la fin, pourtant, il se ressaisit et se leva à la hâte, prenant avec adresse son chapeau sur ses genoux. « Comment se fait-il, Natalia Viktorovna, que vous vous soyez si longtemps tenu à l'écart de ce qui constitue, après tout, malgré ce qu'en peuvent dire les mauvaises langues, un centre unique des libertés intellectuelles et des efforts qui visent à donner forme aux conceptions les plus élevées de notre avenir. Pour votre honorée mère, je le conçois encore. À son âge, de nouvelles idées, de nouvelles figures ne sont pas toujours. Mais vous, est-ce méfiance ou indifférence? Il faut sortir de votre réserve. Nous autres Russes n'avons pas le droit de nous tenir à l'écart les uns des autres. Dans les circonstances où nous vivons, c'est presque un crime contre l'humanité. La douceur du chagrin solitaire nous est refusée. De nos jours, on ne combat pas le diable avec des prières et des jeûnes. Car jeûner, après tout, c'est se laisser mourir de faim. Vous n'avez pas le droit de vous laisser mourir, Natalia Viktorovna. C'est de force que nous avons besoin, de force spirituelle, j'entends. Quant à l'autre force, qui pourrait nous résister, à nous, Russes, si nous savions l'utiliser? Le péché de nos jours connaît des formes nouvelles, et la voie du salut, pour les âmes pures, est nouvelle aussi. On ne la trouve plus dans les cloîtres, mais dans le monde, dans le... La voix profonde semblait monter du sol, et l'on se sentait baigné tout entier dans ses accents. L'interruption de Mademoiselle Aldine eut quelque chose de l'effort d'une personne qui se noie pour se maintenir au-dessus de l'eau. Elle lança avec un accent d'impatience « Mais, Pierre Ivanovitch, je n'ai pas envie de me retirer dans un cloître. Qui penserait à y chercher le salut ?»«
Je parlais au figuré, claironna-t-il. »
« Eh bien, je parle au figuré, moi aussi. » Mais le chagrin reste le chagrin, et la douleur reste la douleur, à l'ancienne manière. Ils ont des exigences auxquelles il faut, de son mieux, faire face. Je sais que le coup, tombé sur nous de façon brutale, n'est qu'un épisode dans l'histoire d'un peuple. Croyez bien que je n'oublie pas cela. Mais pour le moment, il faut que je songe à ma mère. Pensez-vous donc que je puisse la laisser seule?
C'est prendre mes paroles de façon trop positive, protesta-t-il de sa grosse voix calme.
Mademoiselle Aldine n'attendit pas que le son s'en fût éteint. Aller faire des visites à une foule d'étrangers, l'idée m'en déplaît fort, et je ne vois pas ce que vous pouvez vouloir dire d'autre. Il la dominait de sa haute taille, énorme, déférent, la tête rasée comme celle d'un forçat, et cette grosse tête rose évoquait pour moi l'aspect d'une tête sauvage aux cheveux en broussaille, aperçue à travers le trou d'un buisson, et la vision fugitive de membres nus et tannés, fuyant derrière des masses de feuillage rouillés, au milieu d'une nuée de mouches et de moustiques. C'était un hommage involontaire à la vigueur de son style. Personne ne pouvait douter qu'il n'eût erré à travers les forêts de la Sibérie, nu et ceint d'une chaîne. Le manteau de drap noir conférait à sa personne un caractère de décence austère, et faisait penser aux missionnaires.
« Savez-vous ce que je voudrais, Natalia Viktorovna ?» prononça-t-il solennellement. « Je voudrais vous voir devenir une fanatique. »«
Une fanatique ?»«
Oui, la foi seule ne suffit pas. »
Il baissa la voix et éleva pendant un instant un de ses gros bras, pendant que l'autre pendait contre sa cuisse, tenant le fragile chapeau de soie. « Je vais vous dire une parole que je vous supplie de peser avec soin. Écoutez. » Nous avons besoin d'une force qui puisse remuer ciel et terre, d'une semblable force, rien de moins. » La note profonde, souterraine, de ce rien de moins, faisait frémir comme les vibrations profondes d'un gros tuyau d'orgue. « Est-ce donc dans le salon de Madame de S. que nous trouverons cette force ? Pardonnez-moi, Pierre Ivanovitch, d'oser en douter. Cette dame n'est-elle pas une femme du grand monde, une aristocrate ?
Jugement téméraire, s'écria-t-il. « Vous m'étonnez, et à supposer le fait exact, c'est aussi une femme de chair et de sang. Il y a toujours quelque chose qui pèse sur nous pour abaisser notre essor spirituel. Mais que vous en fassiez un reproche, c'est ce que je n'aurais pas attendu de vous. On dirait que vous avez prêté l'oreille à des potins malveillants.
Je n'ai entendu aucun bavardage, croyez-le. Comment serait-il venu jusqu'à nous, dans notre province? Mais le monde parle d'elle. » Et que peut-il d'ailleurs y avoir de commun entre une dame de cette sorte et une obscure fille de la campagne comme moi?
Elle représente, interrompit-il, la manifestation perpétuelle d'un esprit noble et hors de pair.
Son charme, non, je ne veux pas parler de son charme. Mais cela n'empêche pas tous ceux qui l'approchent d'en subir l'ascendant. On sent près d'elle les doutes s'envoler, le trouble se dissiper. Si je ne me trompe, et je ne me trompe jamais dans ce qui touche aux choses de l'esprit,
Vous avez l'âme troublée, Natalia Viktorovna. » Les yeux de Mademoiselle Aldine regardaient droit dans l'énorme figure molle de l'homme, et j'eus l'impression que derrière l'abri de ses lunettes noires, il pouvait se permettre toutes les impudences. Pas plus tard que l'autre soir, en rentrant en ville du château Borel, avec ce nouveau venu si intéressant de Pétersbourg, j'ai pu constater la puissance de cette influence calmante, apaisante même, pourrais-je dire. Je le voyais tout au long de la rive du lac, silencieux comme un homme à qui l'on a montré le chemin de la paix. Je sentais donc dans son âme le travail du levain, comprenez-vous? En tout cas, m'écoutait-il avec patience. J'étais d'ailleurs inspiré moi-même par le génie ferme et subtil d'Éléonore, de Madame de S., vous savez, et sous la clarté de la lune pleine, je pouvais observer la figure du jeune homme, et l'on ne me trompe pas. Mademoiselle Aldine, les yeux baissés, semblait hésiter. Eh bien, je réfléchirai à ce que vous m'avez dit, Pierre Ivanovitch, et je tâcherai d'aller là-bas dès que je pourrai sans crainte quitter ma mère pendant une heure ou deux. Malgré la froideur avec laquelle elle prononça ces paroles, je restai stupéfait de cette concession. Le gros homme saisit avec une telle ferveur la main de la jeune fille que je crus qu'il allait la porter à ses lèvres ou à sa poitrine. Mais il se contenta d'en retenir les doigts dans sa grosse patte en les élevant et en les abaissant tour à tour pendant qu'il lâchait sa dernière bordée de paroles. « Très bien, très bien. Je n'ai pas encore toute votre confiance, Natalia Viktorovna, mais cela viendra. Chaque chose en son temps. La sœur de Victor Aldine ne peut pas rester dans l'ombre. C'est chose impossible, tout simplement. Et aucune femme ne doit rester assise sur le seuil. Les fleurs, les larmes, les applaudissements appartiennent au passé. C'est une conception moyenâgeuse. La reine, c'est dans la reine que les femmes doivent descendre de nos jours. » Il laissa tomber la main de la jeune fille avec un geste de grâce, comme pour lui en faire présent, et il restait immobile, la tête inclinée en une attitude déférente devant la féminité qu'elle représentait. « La reine, il faut descendre dans la reine, Natalia. » Il fit un pas en arrière, inclina son énorme masse et sortit rapidement. La porte battit derrière lui. Mais aussitôt on entendit dans l'antichambre sonner bruyamment sa voix, adressée à la servante qui lui montrait le chemin. Je ne puis dire s'il l'exhortait aussi à descendre dans l'arène. Ses paroles prenaient un ton de prédication qu'interrompit brusquement le bruit léger de la porte donnant sur la rue. Chapitre 3. Nous nous regardâmes pendant un instant. Connaissez-vous cet homme ? Mademoiselle Aldine, en s'avançant vers moi, me posait cette question en anglais. Je pris la main qu'elle me tendait. « Tout le monde le connaît. C'est un féministe, un révolutionnaire, un grand écrivain, si l'on veut, et, comment dire, l'hôte familier du salon mystico-révolutionnaire de Madame de S. » Mademoiselle Aldine passa une main sur son front. « Il était depuis plus d'une heure déjà avec moi, quand vous êtes arrivée. J'étais si heureuse que ma mère fût couchée. Elle a bien des nuits d'insomnie, et quelquefois, au milieu du jour, elle peut reposer pendant quelques heures. C'est seulement un sommeil d'épuisement, je le sais, mais je m'en réjouis tout de même. N'étaient ces heures de repos ? Elle me regarda avec cette pénétration extraordinaire qui me déconcertait, secoua la tête. « Non, elle ne deviendra pas folle. » « Ma chère enfant, m'écriai-je en manière de protestation, d'autant plus frappé que j'étais, bien au fond, loin de croire Madame Aldine tout à fait saine d'esprit. Vous ne savez pas quelle belle et lucide intelligence possédait ma mère, » poursuivit Mademoiselle Aldine avec son regard et la simplicité calme où il me semblait voir toujours une touche d'héroïsme. « Je suis sûr, murmurai-je. J'ai fermé les rideaux dans sa chambre et je suis venu ici. Il y a si longtemps que je voulais rêver en paix. » Elle fit une pause, puis ajouta, sans aucun accent de détresse, « C'est si difficile. » En me regardant avec une fixité étrange, comme si elle avait attendu de ma part un geste de dénégation ou de surprise. Mais je ne fis pas ce geste, et fus irrésistiblement poussé à dire, « Je crains que la visite de ce monsieur n'ait pas rendu la chose plus facile. » Mademoiselle Aldine restait devant moi, avec une expression singulière dans les yeux.
Je ne prétends pas comprendre absolument Pierre Ivanovitch. Il faut avoir un guide, même si on ne veut pas lui abandonner tout à fait la conduite de sa vie. Je suis une fille sans expérience, mais je ne suis pas une de ces âmes d'esclaves dont il y a eu trop en Russie. Pourquoi ne l'écouterai-je pas? Il n'y a aucun mal à laisser diriger sa pensée. Pourtant, je puis vous avouer que je n'ai pas été absolument sincère avec Pierre Ivanovitch. Je ne saurais dire ce qui m'en empêchait sur le moment. Elle s'éloigna brusquement pour aller dans un coin éloigné de la chambre, ouvrir et fermer un tiroir de bureau. Elle revint, un morceau de papier à la main. C'était une feuille mince et couverte d'une écriture serrée, une lettre évidemment. « Je voulais vous lire ces lignes, me dit-elle. C'est une des lettres de mon pauvre frère. Il ne doutait jamais, lui. Comment aurait-il douté? Ils sont une si petite poignée, ces misérables oppresseurs, en face de la volonté unanime de notre peuple. Votre frère croyait la volonté populaire capable de venir à bout de tout? C'était sa religion, déclara Mlle Aldine. Je regardais son visage calme et l'animation de ses yeux. Il va sans dire qu'il faut éveiller, inspirer, concentrer cette volonté, poursuivit-elle. C'est la véritable tâche des vrais agitateurs, la tâche à laquelle on doit sacrifier sa vie. Il faut déraciner et balayer la dégradation de la servitude et les mensonges de l'absolutisme. Ne comptons pas sur une réforme impossible. Il n'y a rien à réformer. Il n'y a chez nous ni l'égalité, ni institution. Il n'y a qu'une poignée de fonctionnaires cruels, peut-être simplement aveugles, contre une nation. Elle froissait légèrement la lettre dans sa main. J'en regardais les pages minces et noircies, dont l'écriture même avait un aspect kabbalistique, incompréhensible à notre expérience d'Européens de l'Ouest. Ainsi posé, concédai-je, le problème paraît assez simple. Mais j'ai peur de n'en pas voir la solution. Et si vous retournez en Russie, je sais que je ne vous reverrai plus. Cela ne m'empêche pas de répéter, retournez-y. Ne croyez pas que je songe à votre salut, non. Je sais que vous n'irez pas chercher une sécurité personnelle. Mais j'aime mieux vous savoir en danger là-bas qu'exposé à certains périls que vous pouvez rencontrer ici. Je vais vous dire, fit Mlle Aldine avec un moment de réflexion. Je sens que vous détestez la révolution. Vous ne la croyez pas légitime. Vous appartenez à un peuple qui a fait un pacte avec la destinée et n'aimerait pas y faillir. Mais nous n'avons pas conclu le marché de ce genre. On ne nous a pas fait cette proposition. Tant de liberté pour tant d'argent comptant. L'idée d'une action révolutionnaire vous fait horreur quand il s'agit de gens que vous estimez. Comme s'il s'agissait d'une chose, comment dire, d'une chose un peu malhonnête. J'inclinai la tête. Vous avez raison, dis-je. Et je vous estime très fort. Ne croyez pas que je l'ignore, commença-t-elle en hâte. Votre amitié nous a été très précieuse. Je n'ai été qu'un spectateur. Une légère rougeur envahit son visage. On peut être précieux comme spectateur. Votre présence m'a fait sentir moins solitaire. C'est difficile à expliquer. Vraiment? Eh bien, moi aussi, je me suis senti moins seul. Et cela me paraît facile à expliquer. Mais tout cela ne durera plus bien longtemps. Voici la dernière chose que je voulais vous dire. Dans une vraie révolution, non pas simple changement de dynastie ou réforme constitutionnelle, dans une vraie révolution, ce ne sont pas les plus belles figures qui se montrent au premier plan. Une révolution violente appartient bien vite aux fanatiques étroits et aux hypocrites tyranniques. Après eux se montrent tous les prétentieux ratés intellectuels de l'époque. Ce sont les chefs et les meneurs. Notez que je ne parle pas des vulgaires coquins. Les natures scrupuleuses et justes, nobles et dévouées, les généreux et les intelligents peuvent mettre en branle le mouvement, mais ils sont vite dépassés. Ils ne sont pas les chefs de la révolution. Ils en sont les victimes, victimes du dégoût, du désenchantement, souvent du remords. Leurs espoirs hideusement trahis, la caricature de leur idéal, telle est la définition du succès révolutionnaire. Il y a eu des cœurs brisés par de tels succès, à la suite de chaque révolution. Mais cela suffit. Comprenez seulement que je ne voudrais pas vous voir une victime. Si je croyais à tout ce que vous dites, je ne penserais pas encore à moi-même, protesta Mademoiselle Aldine. J'accepterais la liberté de n'importe quelle main, comme un affamé prendrait un morceau de pain. Le vrai progrès viendra plus tard, et l'on trouvera alors les hommes nécessaires. Nous les avons déjà parmi nous. On les rencontre qui se préparent dans l'ombre, inconnus. Elle étala la lettre qu'elle tenait encore à la main, et abaissa sur elle son regard. « Oui, reprit-elle, on rencontre de tels hommes. » Et elle lut ces mots, « des existences pures, nobles et solitaires. » Elle replia sa lettre et m'expliqua, pour répondre à mon interrogation muette, « Ce sont les termes dont use mon frère à l'endroit d'un jeune homme qu'il avait connu à Pétersbourg. Ce devait être un de ses amis intimes. Au moins, c'est chose probable, car c'est le seul homme dont mon frère ait jamais mentionné le nom dans les lettres qu'il m'adressait. Absolument le seul. Et le croiriez-vous, cet homme est ici. Il est arrivé récemment à Genève. « L'avez-vous vu ? » demandai-je. « Oui, vous devez l'avoir vu, naturellement. »« Non, non, je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas qu'il fût ici. C'est Pierre Ivanovitch lui-même qui vient de me l'apprendre. Vous l'avez entendu parler d'un nouveau venu de Pétersbourg. Eh bien, c'est cet homme-là dont mon frère proclame l'existence pure, noble et solitaire. Un ami de mon frère. Il est sans doute compromis au point de vue politique, remarquai-je. Je ne sais pas, mais c'est probable. Qui sait ? Peut-être est-ce son amitié même pour mon frère qui... Mais non, ce n'est guère possible. En somme, je n'ai d'autres renseignements que ceux de Pierre Ivanovitch. Ce jeune homme a présenté une lettre d'introduction du père Zosime. Vous savez, le prêtre démocrate. Vous avez entendu parler du père Zosime. Oh oui, le fameux père Zosime qui, l'an dernier, a passé 2 mois à Genève, repris-je. Après son départ, il semblait avoir disparu de la scène du monde. Il paraît qu'il s'est remis à l'œuvre en Russie, du côté du centre, dit Mademoiselle Aldine avec animation. Mais, je vous en prie, n'en dites rien à personne. Ne laissez rien échapper, car si les journaux s'emparaient de cette nouvelle, le père pourrait être en danger. Vous avez évidemment un grand désir de rencontrer cet ami de votre frère, demandai-je. Mademoiselle Aldine remit la lettre dans sa poche. Ses yeux se dirigèrent par-dessus mon épaule vers la porte de la chambre maternelle. « Pas ici, murmura-t-elle. Pas pour la première fois, au moins. » Après un moment de silence, je lui dis au revoir. Mais Mademoiselle Aldine me suivit dans l'antichambre, en fermant soigneusement la porte derrière nous. « Vous devinez où je veux aller demain. »« Vous vous êtes décidé à faire une visite à Madame de Hesse ?»« Oui, j'irai au château Borel. Il le faut. » « Que pensez-vous donc y apprendre ? » demandai-je à voix basse, craignant qu'elle ne se berçât de quelque impossible espoir. Mais je me trompais. « Songez un peu, un tel ami, le seul homme dont mon frère ait jamais parlé dans ses lettres. Il aura bien quelque chose à me donner, quand ce ne serait que quelques pauvres paroles, peut-être un mot ou une pensée des derniers jours. Voudriez-vous me voir tourner le dos à tout ce qui me reste de mon pauvre frère, à son ami ?» « Certes non, protestai-je, et je puis parfaitement comprendre votre pieuse curiosité. » « Des hommes à l'existence pure, noble et solitaire, » murmura-t-elle doucement. « Il y en a, il y en a. Eh bien, c'est l'un d'eux que je pourrais interroger sur notre cher mort. Mais pourquoi croyez-vous devoir le rencontrer au château ? Pensez-vous qu'il y habite en qualité d'hôte ? Je ne saurais le dire, avoua-t-elle. » Il a apporté une lettre d'introduction du père Zosime, qui est aussi, paraît-il, un ami de Madame de S. Il faut croire que ce n'est pas une femme aussi méprisable, en somme. On a fait courir bien des bruits sur le compte du père Zosime lui-même, observai-je. Elle haussa les épaules. La calomnie est encore une arme de notre gouvernement. C'est un fait bien connu. Oui, je sais, le père Zosime a été protégé par un gouverneur général de province. Je me souviens d'avoir discuté ce sujet avec mon frère, il y a 2 ans. Mais son œuvre était bonne, et il est proscrit aujourd'hui. Peut-on exiger preuve meilleure ? Peu importe d'ailleurs ce que fut ou ce qu'est ce prêtre, cela n'a rien à voir avec l'ami de mon frère. Si je ne le rencontre pas au château, je demanderai son adresse. Et naturellement, il faudra qu'il vienne voir ma mère aussi, plus tard. Comment deviner ce qu'il pourra nous dire? Quelle grâce, si ces paroles devaient apaiser ma mère. Vous savez les idées qu'elle se forge. Peut-être pourrait-on lui donner une explication, l'inventer au besoin. Ce ne serait pas une faute. Certes, répliquai-je, ce ne serait pas une faute, mais ce pourrait être une erreur. Je voudrais seulement lui voir retrouver son courage. Tant qu'elle restera dans son état actuel, je ne pourrai penser à rien avec calme. Songez-vous donc à inventer quelque pieux mensonge pour la tranquillité de votre mère, demandai-je. Pourquoi un mensonge? Il est bien certain qu'un tel ami connaîtra bien les détails sur la vie et les derniers jours de mon frère. Il pourra nous renseigner. Il y a, dans les faits matériels, quelque chose qui m'enlève toute quiétude. Je suis sûr qu'il avait l'intention de nous rejoindre à l'étranger, qu'il avait en vue un projet, un grand acte de patriotisme, non pas pour lui seul, mais pour nous deux. J'avais confiance, j'attendais l'heure fixée. Oh, avec quel espoir, avec quelle impatience! J'aurais pu l'aider. Et maintenant, tout à coup, cette insouciance apparente, comme s'il n'y avait plus eu d'intérêt pour lui dans la vie. Elle resta un instant silencieuse, puis conclut avec obstination « Je veux savoir ». En revenant sur ces paroles, au cours de la lente promenade qui me ramenait du boulevard des philosophes, je me demandais avec curiosité ce qu'elle désirait précisément savoir. Ma rêverie trouvait un point de départ dans ce que je connaissais de son histoire. Mademoiselle Aldine était considérée avec une certaine méfiance dans l'établissement d'éducation pour jeunes filles où elle avait achevé ses études. On la soupçonnait d'opinions indépendantes sur les sujets réglés par l'enseignement officiel. Plus tard, la mère et la fille, revenues dans leur campagne natale, s'attirèrent, en donnant ouvertement leur avis sur les événements publics, une réputation de libéralisme. La troïka du chef de la police de district commença à rouler souvent dans leur village. « Il faut que je tienne les paysans à l'œil, » disait-il pour expliquer ses visites. Il faut veiller un peu sur deux femmes seules. Il inspectait les murs de la maison comme s'il avait voulu les percer du regard, examinait les photographies, retournait négligemment les livres du salon et prenait congé après la collation familière. Mais un soir, tout agité et avec un accent de détresse, le vieux prêtre du village vint avouer qu'il avait reçu l'ordre de surveiller tout ce qui se passait dans la maison et de s'en assurer à tout prix, à l'aide de son autorité spirituelle sur les domestiques, par exemple. Il devait surtout espionner les visiteurs que recevaient ces dames, connaître leur identité, la durée de leur séjour, la partie du pays d'où ils venaient, et ainsi de suite. Le pauvre et simple vieillard mourait d'angoisse, d'humiliation et de terreur. « Je suis venu vous prévenir. Soyez prudente, pour l'amour de Dieu. La honte me dévore. Mais je suis pris dans un filet d'où l'on ne peut se tirer. Je serai obligé de dire ce que j'ai vu, car autrement mon diacre pousserait les choses au noir pour s'insinuer dans les bonnes grâces de l'autorité. Et puis il y a aussi mon gendre, le mari de ma paresco, qui est expéditionnaire au bureau des domaines. On le mettrait bien vite à la porte, pour l'envoyer peut-être quelque part. » Le vieillard se lamentait en essuyant ses larmes sur les rigueurs d'un temps là où les gens semblaient ne pouvoir s'accorder. Il n'avait pas envie de passer le soir de sa vie, la tête rasée, dans la cellule pénitentiaire d'un monastère, où il serait soumis à toutes les rigueurs de la discipline ecclésiastique, car il n'aurait aucune pitié pour un pauvre vieillard, gémissait-il. Il avait failli en avoir une attaque de nerfs, et les deux dames, pleines de commisération, l'avaient consolé de leur mieux, avant de lui laisser regagner sa chaumière. D'ailleurs, elles avaient fort peu de visiteurs. Les voisins, dont certains amis de longue date, commençaient à se tenir à l'écart. Quelques-uns par timidité, d'autres avec le dédain marqué de hobereaux qui venaient seulement à la campagne pour l'été. Ce n'étaient, au demeurant, d'après Mademoiselle Aldine, que des aristocrates et des réactionnaires. La jeune fille menait donc une existence solitaire. Ses relations avec sa mère étaient des plus tendres et des plus libres. Mais Madame Aldine avait connu les expériences de sa propre génération, ses souffrances, ses tromperies et ses apostasies. c'est en étouffant tout signe d'anxiété et en gardant une réserve héroïque qu'elle manifestait son affection pour ses enfants. Pour Nathalie Aldin, son frère, dont l'existence de Pétersbourg, bien qu'un peu mystérieuse, n'était nullement énigmatique, car on ne pouvait douter de ses sentiments ou de ses pensées, son frère était le seul représentant visible d'une liberté proscrite. Ils avaient, dans de longues discussions, pleines de nobles espoirs d'action et de foi dans le succès, contemplé à l'avance l'avènement de la liberté et ses promesses infinies. Et brusquement, toute action, tout espoir sombrait devant les révélations qu'était allé chercher le journaliste anglais. Seul demeurait le fait positif de la mort du frère. Mais ses causes profondes restaient dans l'ombre. La jeune fille se sentait abandonnée sans explication. Elle ne doutait pas de son frère, cependant. Et ce qu'elle désirait, c'était d'apprendre à tout prix le moyen de rester fidèle à l'esprit du mort.